Métaphysique, Père Philippe, 18 janvier 1984, Saint-Joseph.
Alors, petite question. Ceci est a-t-il la même signification que ceci existe? Très grave problème. Voyez Fabreau. Fabreau s'oppose violemment à l'identification de ceci est, ceci existe. C'est évident qu'il y a deux mots. Alors, est-ce que l'exister est autre chose que l'être? Je crois que l'exister, si on prend l'étymologie, ex-iste, veut dire que, comme disaient les scolastiques, exister, ça veut dire être indépendamment de la cause. On est projeté. Donc il y a une signification un peu différente, mais fondamentalement, c'est la même signification. L'être et exister. Mais exister a quelque chose d'un peu plus particulier, puisque c'est en référence avec ce dont on dépend. Je ne dirai pas plus, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que Fabreau dit là-dessus. Il s'oppose violemment à l'exister en disant qu'il faut revenir à essayer, il faut bien distinguer les deux, la scolastique a mêlé les deux. La scolastique, c'est très vrai, a pris exister parce que c'est un mot plus récent que être. L'existence a été créée après. C'est vraiment un mot qui est sorti de la scolastique, c'est très vrai. Tandis qu'être, c'est beaucoup plus grec, c'est beaucoup plus ancien. Alors, si je vais au fondement, je prendrai être et je jetterai l'exister. Mais il faut bien voir que quand on a parlé de l'essence et de l'existence, ça, c'est un fait, on parle de l'essence et de l'existence. Quand on parle de l'essence et de l'existence, on parle de la distinction de ens, l'essence, et esse. Donc, au fond, là, on identifie les deux. Alors, vous voyez, c'est un petit truc qu'il faut réfléchir, il ne faut pas trop se... Si vous voulez, dans un purisme absolu, philologique, faites la distinction entre les deux. Essence. Existence. Essence, c'est ce qui, c'est ens, d'une certaine manière. Essence. Existence, c'est un essai, on ne peut pas nier. Donc c'est ens et essai. Existence, comme vous dites, et vous voyez, essence, c'est pas tout à fait essence, hein, c'est pas tout à fait essence. Alors mettez R, essence, essentiel, et puis essai. Essai se traduit par existence. Mais si vous voulez existence, hein, ça fait bien. Alors, ex, c'est celui qui est en dehors des causes. Et c'est comme ça que la scolastique définit l'existence. Ce qui est posé en dehors des causes, il existe. C'est la naissance. On est porté en dehors. On a son existence propre. Et on est. Et bien, c'est une petite distinction uniquement, parce qu'en réalité, l'existence implique l'essai. Alors, je crois qu'il ne faut pas trop insister là-dessus. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que le mot « être » est beaucoup plus ancien que le mot « exister ». Et que le mot « exister » implique plus le fait d'être. Alors il y a plus le fait d'être. On insiste plus davantage sur quelque chose de positif qui est posé en dehors des causes, qui n'est pas dit dans « essai ». Vous voyez, nuance. N'insisterai pas plus. Pourquoi dit-on qu'est-ce que c'est que l'être et non pas qu'est-ce est ou qu'est-ce exister? C'est un fait. Hein? On a dit qu'est-ce que c'est que l'être. Pourquoi? parce que justement, le propre de l'interrogation, c'est de formaliser. C'est le propre de l'interrogation. Alors ça, c'est très important, je l'avais dit, mais j'y reviens, parce que je vois que ce n'est pas entré dans la cervelle. Ça met du temps. C'est bien évident, ça met du temps. Vous avez dit que la différence entre l'expérience et l'interrogation, c'est quand même très important, c'est ça. L'expérience, l'intelligence colle à la réalité, elle y adhère. Donc, l'expérience regarde le tout existant, regarde le ceci qui existe. L'interrogation, c'est l'intelligence qui se sépare des sens. C'est une intelligence séparée, l'interrogation. Elle se met sur ses pieds. Elle se dresse sur ses pieds. Elle se quitte l'expérience, elle quitte le contact avec l'existé, et puis elle saisit quelque chose que nécessairement elle formalise. L'interrogation formalise toujours. Parce que c'est un aspect de l'expérience que je veux regarder. Ce n'est pas le tout. C'est quelque chose de particulier. Donc l'interrogation formalise. Et la formalisation se fait en passant du être à être. Ça, dans le langage, c'est net. Et c'est le présent, l'acte d'être. Formaliser et, c'est dire qu'est-ce que c'est que l'être. Formaliser. L'infinitif formalise. On prend être pour lui-même, tandis que quand je prends et, je le prends en fonction du sujet, de ce tout, de ce ceci qui est. La forme du présent, la forme du verbe être au présent est relative au sujet, tandis que lorsque je prends l'infinitif, l'infinitif n'est plus relatif à un sujet, il est pris pour lui-même, c'est ça formaliser. Ce que Platon appelle la forme en soi, si vous voulez. Alors ici, ce n'est pas la forme, puisque c'est le verbe. C'est le verbe être. Mais on regarde en soi, pour lui-même. Et ça, c'est le propre de l'interrogation. C'est pour ça que la formule, vous voyez, qu'est-ce et, ce n'est pas adéquat. Puisque l'interrogation formalise. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'être ? À propos de la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors voilà. On l'a repris. Pouviez-vous expliquer ce que représente et ce que signifie l'être d'une réalité ? Alors, c'est là où vient le problème de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est de savoir ce qu'est l'être. Donc, la signification profonde de l'être. Alors, comprenez bien que la signification est en premier lieu au niveau de la définition et des catégories. Il faut bien comprendre ce problème-là. Le problème de la signification, il est en premier lieu au niveau des catégories, au niveau des déterminations. L'être, à premier lieu, on ne voit pas sa signification, puisqu'il est relatif à ceci, et qu'il s'identifie avec ceci. Donc, d'une certaine manière, être n'ajoute rien. Truc de Kant, sans thaler, qui existe, ou sans thaler, tout simplement. La signification est la même. Au niveau catégorial, ça c'est très important de le comprendre, au niveau des catégories, la signification est la même de dire ceci est ou ceci. Cependant, mon intelligence est capable de dépasser les catégories. Mon intelligence est capable de saisir quelque chose de plus que la catégorie. Elle saisit les principes. Elle adhère à la réalité qui existe. Et donc l'intelligence comme telle n'est pas identique à l'aspect catégorial. C'est l'appréhension de l'intelligence quand on appréhende selon un niveau tout à fait premier, l'appréhension est au niveau catégorique. Per modo cuiditatis, c'est la cuidité. Nous verrons bien ce que c'est que la cuidité plus tard. Retenez simplement le mot barbare. C'est un petit mot de famille. Barbare, cuidité. Parce que ça ne signifie rien. C'est un mot inventé par les philosophes. Donc il ne signifie rien. Demandez au marché, donnez-moi cette cuidité. Et vous désignez du doigt la carotte. Cuidité carotte qu'il me faut. Alors on regardera d'un drôle d'air. Hein, parce que si vous dites carotte, ah, ceci. Mais c'est la carotte qui a une signification, donc qui a une cuidité. La signification catégoriale de nouveau cuidité. Alors, vous comprenez, quand je formalise être, je veux connaître la signification. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je veux connaître la signification de quelque chose qui, à première vue, était enfoui dans le ceci. Et donc, je veux dévoiler la signification de l'être. C'est un dévoilement. Ça, c'est tout à fait juste. Et Heidegger a raison de dire qu'on dévoile l'être. Parce que « est » est complètement inhibé dans le « ceci ». À tel point que je peux dire que « ceci » et « ceci est », c'est la même signification. Donc « est », c'est confondu à l'amalgame premier. C'est confondu dans le ceci. Il est totalement relatif au ceci. Et donc, il n'a rien pour lui-même. Et cependant, l'intelligence ne se contente pas de cela. Et l'intelligence va plus loin et dit, mais qu'est-ce que c'est que l'être ? Et nous l'avons vu, comment elle se posait l'interrogation. Parce qu'elle a vu que être s'ajoutait aux différents aspects, s'identifiait aux différents ceci. Et donc, il y a une signification propre de l'être. Et alors, je dévoile par l'interrogation la signification de l'être. Et je veux savoir ce qu'est cette signification. Oui, donc, nous sommes ici en face d'une sur-signification. Ou d'une méta-signification. Ça m'est égal. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle signification que l'intelligence veut dévoiler et veut connaître. Et c'est ce qu'Heidegger dit, penser l'être. Penser l'être, c'est découvrir une signification qui d'habitude, vous ne la voyez pas. D'habitude, vous regardez la carotte et vous dites la carotte. Et vous ne vous posez pas, est-ce qu'elle existe ? Vous ne vous posez pas cette question-là. Servant les carottes, tout d'un coup, vous arrêtiez, est-ce qu'elle existe, la carotte ? Je vous apporte un plat, est-ce qu'elle existe, la carotte ? Vous ne vous posez pas la question. Ça devient dingue hein, si on se pose la question qu'est-ce que c'est que l'être ? Et pourtant, l'intelligence n'est pleinement elle-même que quand elle se pose qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc la super signification, la méta-signification. C'est très curieux ça, c'est très intéressant de voir que l'intelligence est capable de se poser la question qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors je comprends très bien qu'à ce moment-là, on se dit. Mais est-ce que cette signification est distincte de P ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Ça, il faut découvrir ça. Il faut dévoiler votre intelligence, comprendre que l'intelligence passe du ceci, c'est-à-dire à la réalité que je vois, à subitement quelque chose qui est proprement de l'intelligence et que les sens ne peuvent pas saisir. Les sens ne saisissent pas l'être. Mon imagination ne saisit pas l'être. Seule l'intelligence peut comprendre qu'il y a là un problème. Mais c'est l'intelligence séparée. Séparée des sensations, séparée de l'imaginaire. Quand l'intelligence reste collée aux sensations, collée à l'imaginaire, elle reste collée où ceci est. Mais si l'intelligence est capable d'interroger, c'est un fait. Et quand l'intelligence interroge, l'intelligence veut aller plus loin. C'est une intelligence qui décolle. Elle décolle de la réalité habituelle pour aller plus loin. Alors à ce moment-là, vous pouvez dire elle devient folle. Ah oui. Pour entrer en métaphysique, il faut devenir un peu fou. Comment ça ne va pas ? Si vous restez positiviste, hein, le positivisme bonbon, en disant moi je veux uniquement regarder ce que mon pied touche. que mon pied ne touche pas à l'eau. J'ai trop peur. Je comprends. J'ai trop peur de regarder l'être. Mon pied n'a jamais touché l'être. Même quand on est pieds nus, on ne touche pas l'être. On touche des cailloux, mais pas l'être. On touche des étangs, mais pas l'être. Ma main n'a jamais touché l'être. Jamais. Mon imagination n'a jamais touché l'être. Non, je ne peux pas me le représenter. Est-ce qu'il y a une signification ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? En vous posant la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», vous vous posez la question « l'être a-t-il une signification ?» Parce que c'est impliqué dedans. Parce que là, vous passez de la signification des catégories à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très important de saisir ce passage, hein, parce que c'est ce passage-là qui me fait entrer dans quelque chose de nouveau, ce quelque chose de nouveau qui n'est plus les parties de la philosophie qui dépendent directement de l'expérience. Peut-on dire que l'abstraction universelle, donc blanc, reste liée à la réalité matérielle ? L'abstraction formelle, blancheur, reste liée à la forme. Mais que l'abstraction être n'est ni liée à la matière, ni liée à la forme. N'est-ce pas là un signe du dépassement du devenir ? Oui, très bien, on peut le dire. Alors je reviens, je comptais revenir là-dessus, il reste, parce qu'il y a un petit problème particulier. Blanc, blancheur. Ça, c'est un nota bene par rapport à ça. Essayez de comprendre ce que c'est que l'interrogation. J'ai l'expérience du blanc du mur. Je n'ai pas d'expérience de la blancheur. La blancheur, au-delà de toute expérience. Et c'est une formalisation du blanc. Je veux saisir dans le blanc du mur, ce qu'est le blanc. C'est pour ça que mon intelligence formalise, hein, petite maladie. Et vous voyez la cérébralisation psychologique, hein, il faut voir comment ça met la cérébralisation. C'est quand vous ne voulez plus retourner au blanc. Alors vous perdez pédale et vous cérébralisez. Alors vous êtes dans la blancheur, la rougeur, et vous regardez toutes les choses qui sont purement abstraites. Alors ça, c'est la cérébralisation. Tant que vous êtes conscient que la blancheur provient du blanc, vous êtes réaliste. Tandis que le jour où vous séparez les deux, vous cérébralisez. Petite maladie dignes des intellectuels. Ils aiment bien d'être dans la blancheur, parce que là, personne ne les dérange. Tandis que quand ils sont par rapport au blanc du mur, tout le monde peut dire, mais non, ce mur n'est pas blanc, vous voyez bien, il est ocre, vous voyez bien, il est gris, vous voyez bien, il n'est pas blanc, vous voyez, c'est ça. Tout le monde peut le dire. Blancheur, ah non, je suis dans mon domaine tout à fait là. Ça, c'est la cérébralisation, je me sépare du blanc. Et on le fait assez vite, hein, si on ne fait pas grande attention. Quand il s'agit de blanc et de blancheur, ce n'est pas très grave. Mais quand il s'agit de libre, de liberté, vous comprenez bien, les intellectuels aiment de discuter sur la liberté. Ils discutent indéfiniment sur la liberté, sans voir que la discussion sur la liberté, c'est la discussion sur la blancheur. Et qu'ils n'ont jamais expérimenté la liberté. Ils ont expérimenté des actes libres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors ça, quand il s'agit de la liberté, vous écrivez des livres sur la liberté. Et vous ne revenez jamais sur l'acte libre. Et regardez, faites ça, c'est une petite clé, ça, qui était très amusante à voir. Tout ce qui est objet d'expérience et ce qui n'est pas objet d'expérience. Ce qui est une formalisation. Je comprends très bien qu'on parle de la liberté, c'est nécessaire de parler de la liberté, mais il faut savoir que je ne progresse dans la signification de la liberté que dans la mesure où j'ai l'expérience d'acte libre. Et donc, je dois tout le temps revenir à l'acte libre, non pas à la blancheur, non pas au mur, mais à l'acte libre. Je reviens à l'acte libre qui seul a l'expérience. Tandis qu'au contraire, la liberté. Mais c'est là où le jugement d'existence est toujours présent. Tandis que dans liberté, le jugement d'existence est absent. Il n'y a plus de jugement d'existence, parce que la liberté n'existe pas. Alors, comprenez. Je continue. Homme, humanité. L'humanité, en dehors du journal, est une formalisation. N'est-ce pas? C'est une formalisation. Parce que c'est la liberté aussi, parce qu'il y a les deux journaux. Alors on les concrétise de cette manière. Mais c'est non supponit. Hein. Si on était un bon logicien, on dirait que le journal non supponit, c'est liberté. Non supponit humanité. C'est très curieux. Ces hérésies que les gens font et que tout le monde a pas. Bon, alors, le passage de homme à humanité, je dis, ça a même signification. Hein, j'ai dit ça. Blanc-blancheur. Pas tout à fait. Je suis obligé de dire que ce n'est pas tout à fait la même signification. Hein? Alors l'objection que vous me faites, hein? Je la fais, moi. Je la fais pour vous. Vous me dites que c'est la même signification être et est. Et vous avez donné comme exemple blanc, blancheur. Or, c'est vrai qu'il y a quelque chose de commun. Ce par quoi? Ce par quoi blanc et blanc. Mais la blancheur n'a pas la même signification que blanc. La preuve, c'est que blanc du mur, je l'expérimente, et blancheur, je ne l'expérimente pas. Blancheur n'implique pas l'exister, blanc implique l'exister, donc ça n'a pas la même signification. Et vous le voyez tout de suite par homme et humanité. Vous n'allez pas dire que la signification d'humanité, c'est la même que homme, non. Vous n'allez pas dire que la signification de libre et de liberté, c'est la même, non. Donc, vous voyez bien, Heidegger a raison. Heidegger a raison de dire que être a une signification différente que ce qui est. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Ça, c'est une objection très forte et intéressante pour essayer de comprendre comment, de fait, je ne peux pas revenir pour trouver ce que c'est que l'être à être. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre? Premièrement, je vous donne deux réponses. Deux réponses qui ne sont pas... Il faut les prendre successivement. Première réponse, c'est que blancheur a la même signification que blanc partiellement. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a de signification formelle dans blanc est dans blancheur. Parce que quelle différence y a-t-il entre humanité et homme? Homme exprime une réalité qui existe. L'homme. Quand le Saint-Père dit l'homme, le Saint-Père dit jamais l'humanité. Hein, vous avez remarqué. Pas à cause du journal. Non, pas ça du tout. Il n'aime pas dire humanité, il dit l'homme. Et quand il dit l'homme, avec sa tonalité, on voit que c'est concret. C'est l'homme. L'homme qui existe. Donc, homme existe, homme implique une réalité qui peut exister, qui existe. Tandis que humanité, ce par quoi l'homme est homme. Donc c'est une formalisation. Cette formalisation, ce par quoi l'homme est homme, est contenue dans l'homme. Donc, c'est déjà suffisant. La signification de être est contenue dans la signification de est. Je peux donc, cherchant la signification de être, revenir à ceci est. Puisque la signification de l'être est contenue dans ceci. Ce serait déjà une réponse suffisante pour montrer que je peux revenir tout simplement à ceci, puisque la signification de l'être provient de ceci. Et je peux donner une autre réponse qui va plus loin, qui est plus intéressante d'une certaine manière. C'est que lorsqu'il s'agit de réalités qui ne sont plus des réalités limitées, mais qui ont quelque chose d'illimité dans leur signification. Le concret et l'abstrait ont même signification. Bon. vérité. Et être. Être et c'est. Saint Thomas fait cette petite remarque très intéressante. Quand je dis Dieu et déité, la déité que Maître Eckhart reprendra. Dieu et déité. Dieu c'est concret, déité c'est abstrait. Eh bien, Dieu et déité ont la même signification. Là, il n'y a plus du tout une partie qu'on laisse tomber. Ça a exactement la même signification. Bon et bonté, exactement la même signification. Pourquoi ? Parce que ces réalités n'impliquent plus dans leur concept la matière. La matière n'est pas impliquée dans bon, dans vrai, dans être, dans Dieu. Ce sont des réalités qui ont une signification infinie. Toutes les réalités qui impliquent la matière sont toujours limitées. Blanc implique la matière. Homme implique la matière, implique le corps. Donc, ce sont des réalités limitées. Et libre aussi, parce que ça implique un acte humain qui est limité. Sauf si je prenais un acte spirituel. Au fond, l'acte humain implique aussi un aspect sensible. Donc, il est limité. Tandis que bon et bonté n'impliquent pas la matière. Il y a une signification analogique. La signification de bon est analogique. Comme la signification de vrai, comme la signification de être, comme la signification de Dieu. Donc ce sont des significations analogiques, c'est-à-dire qui n'impliquent pas de limites et qui n'impliquent pas de matière par le fait même. Et par le fait même, le mode abstrait de notre concret font qu'il y a exactement la même signification. Je peux dire aussi bien Dieu est bon que Dieu est la bonté. Je peux dire les deux. Je ne peux pas dire l'homme est bon et l'homme est la bonté. Je ne peux pas dire ça. Pierre n'a pas le droit de dire regardez-moi, je suis bon, regardez-moi, je suis la bonté. Tu te gonfles un peu trop. Hein. Je suis la bonté. Non, je ne suis pas la bonté, je suis bon. Je participe du bon. Mais je ne suis pas la bonté, tandis que vous pouvez dire que Dieu est bon et que Dieu est la bonté. Parce qu'il est le bon parfait. Il ne participe pas du bon, il est la bonté par elle-même. Donc il est la bonté. Tandis que je ne peux pas dire Pierre est homme et Pierre est l'humanité. Dès qu'on est en face de quelque chose de limité, alors immédiatement la signification de l'abstrait a quelque chose de plus absolu. Et bien quand il s'agit d'être, on peut dire que la signification de « est » et de « être » sont identiquement les mêmes, mais selon deux modalités différentes. Ce n'est pas seulement contenu dans ceci, mais c'est la même signification, selon deux modalités différentes. Une signification qui est selon un mode concret ou selon un mode abstrait. Oui, cette seconde remarque est plus importante que la première, mais la première est quand même intéressante, parce que si on n'acceptait pas la seconde, il faudrait se rabattre sur la première. Alors, continuons. Ah, il y a une remarque, mais je la verrai la fois prochaine. Parce que... Continuons en voyant bien que c'est très vrai, l'intelligence est capable de faire que l'expérience que j'ai dans le jugement d'existence, cette méta-expérience du jugement d'existence, ceci est. L'intelligence est capable de séparer, d'abstraire et du ceci. Elle est capable de séparer, d'abstraire le et du ceci. Bien que dans la réalité, ceci est, regarde la même réalité. Pourquoi l'intelligence est capable de faire ça? C'est parce que l'intelligence a vis-à-vis de la réalité deux contacts différents. Puisqu'elle compose, et le langage est un truc, ceci est. Il y a donc deux contacts de l'intelligence, notre intelligence humaine avec la réalité, le ceci et le est. Et donc elle est capable de les séparer pour mieux les connaître. Et l'intelligence les sépare en interrogeant. C'est par l'interrogation, c'est le premier moment de l'analyse, l'interrogation. C'est pour ça que je crois que l'interrogation, c'est toujours l'hypothèse de l'intelligence. On analyse à partir d'une hypothèse. Et l'interrogation montre ce qu'il y a de fondamental, c'est une transhypothèse, ou une méta-hypothèse, l'interrogation. C'est quelque chose qui est à la racine même de l'intelligence. L'intelligence a besoin d'analyser. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas intuitive. Si mon intelligence était intuitive, elle n'aurait pas besoin. Elle n'a qu'à demander les anges. Les anges n'analysent pas. Ils ont un pouvoir extraordinaire intuitif, ils n'analysent pas. Alors évidemment, au point de vue philosophique, c'est difficile de parler des anges, parce que c'est difficile de faire une métaphysique angélique, mais ce serait intéressant de faire une métaphysique angélique. Parce qu'on verrait peut-être, dans une métaphysique angélique, que les hommes constamment se mettent à la place des anges. Ça nous permettrait de mieux comprendre ce que c'est qu'une métaphysique humaine, la métaphysique de l'homme. Parce que la métaphysique de l'homme, c'est l'intelligence humaine qui a besoin d'analyser. L'homme a besoin d'analyser. L'homme ne peut pas progresser sans analyser, parce qu'il n'a pas un mode intuitif. Je connais les réalités à partir de mes sens. Si je connais les réalités à partir de mes sens, à partir de mes diverses sensations, les sensations étant multiples, étant diverses, nécessairement, l'intelligence tourne autour. Vous voyez ça symboliquement, quand vous voyez la nuit, un papillon qui est attiré par la lumière, il tourne autour. Moi, ça me fait toujours penser aux philosophes. Il tourne autour. Hein. Il ne peut pas saisir. C'est quelque chose de trop fort pour lui. L'être est quelque chose de trop lumineux pour notre intelligence. Alors nous tournons autour. Et quand on tourne autour, on veut, si on réfléchit un instant, analyser. Nous ne saisissons pas intuitivement. Nous tournons autour des réalités. Et c'est bien ce que nous faisons quand nous voulons connaître quelqu'un. Alors vous nous dites, il a différentes faces, différents côtés. Et c'est vrai. Une statue, vous la regardez de différentes manières. Et un être humain, vous la regardez de différentes manières. Vous l'éprouvez pour bien saisir la manière dont il réagit. Vous n'avez pas l'intuition. Et celui qui dit, moi j'ai l'intuition tout de suite. Le regard sceptique, vous dites, il va tomber dans le fossé ou dans le précipice. Parce que nous n'avons pas d'intuition. Nous avons une manière plus ou moins profonde de pénétrer dans la réalité. Mais nous avons besoin d'analyse. Et on commence à analyser par l'interrogation. Et c'est là la très grande différence d'une philosophie purement descriptive. La description refuse l'analyse. Tandis qu'au contraire, lorsque vous voulez aller plus loin que la description, vous n'avez pas d'autre méthode que d'analyser. Et le premier moment de l'analyse, c'est l'interrogation. C'est pour ça que c'est si important, ce moment de l'interrogation. C'est le premier moment de l'analyse. Vous vous mettez le plus loin possible pour mieux saisir cette réalité. Et quand vous êtes sur le bord de la mer est opaque. Si vous vous élevez dans l'air, vous pénétrez dedans. Or, l'intelligence qui interroge, c'est l'air. Pour pénétrer dans la réalité. Et elle veut pénétrer dans la réalité, elle veut savoir intus ledure, elle veut connaître en profondeur la réalité. Et pour connaître en profondeur la réalité, elle interroge. Donc c'est très important de saisir cette nécessité de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, et le point de vue de l'expérience, ceci est. Une fois que l'intelligence interroge, elle veut aller plus loin. L'interrogation n'est pas un but, n'est pas un terme. Pour certains, là aussi je suis encore obligé de le dire, Merleau-Ponty première manière, considère que l'interrogation, c'est la chose essentielle. Tant qu'on cherche, on est intelligent. Le jour où on a trouvé, on est bête. Hein? Je dis ça en gros, mais c'est exactement ça. Il y a des gens qui disent, on est en recherche. Quand vous dites à quelqu'un, on est en recherche, ah, oh, comme vous êtes intelligent. C'est ça que ça veut dire, immédiatement, les gens. Ah, très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire, on a trouvé, comme vous êtes bête. Ce que vous croyez avoir trouvé, alors qu'il ne faut jamais trouver. Il faut toujours être en recherche. Il y a quelque chose de juste. C'est que l'intelligence sait que ce qu'elle a trouvé n'est jamais l'absolu de la réalité. L'absolu de la réalité est toujours plus que ce qu'on a trouvé. C'est ce qui rend odieux le dogmatisme. Parce que vous mettez un absolu là où il n'est pas. L'absolu, il est dans la réalité. Il n'est pas en dehors. Il n'y a que la réalité qui est absolue. Ce que je pense de la réalité n'est jamais l'absolu. Mais dans la mesure où je m'approche le plus possible de la réalité, il y a quand même un reflet de l'absolu. Il y a quand même quelque chose de l'absolu. Mais c'est quand même toujours relatif à la réalité. C'est très important de comprendre ça. Parce que ça fait comprendre que l'intelligence ne progresse qu'en analysant. Et dès que j'analyse, je supprime l'absolu. Ceux qui analysent le savent. C'est pour ça qu'ils sont tellement en irritation quand il s'agit d'une pensée dogmatique qui dit c'est ça la vérité. Mais non, nous cherchons la vérité. Nous la cherchons. Et nous essayons de respecter l'absolu de la réalité et on y revient tout le temps. Et on y revient de diverses manières. On l'interroge de diverses manières pour mieux la connaître. Mais on sait très bien que ce que nous connaissons de la réalité n'est jamais adéquat à la réalité. Donc, ce que nous connaissons de la réalité reste toujours relatif à la réalité. C'est très important, ça, vous voyez. Parce qu'autrement, on tombe dans ce qu'on appelle le dogmatisme. Et le dogmatisme, c'est mettre l'absolu là où il n'est pas. Alors, comprenons que l'interrogation, c'est capital, c'est très très important, l'interrogation. Mais que l'interrogation n'est pas une fin. C'est pour connaître. C'est pour aller plus loin. Donc, j'interroge pour aller plus loin. C'est un palier. C'est un haut palier, un haut plateau, je veux dire. Je suis seul quand j'interroge. Je me suis mis le plus haut possible. Et plus l'interrogation est forte, plus l'intelligence monte. Et l'intelligence revient à l'expérience pour essayer de saisir, à partir de l'expérience, la réponse à l'interrogation. Vous voyez bien, ici, et je reviens un instant sur ce que j'avais dit la dernière fois, vous voyez bien ici la différence d'une philosophie réaliste avec une philosophie qui tendrait vers l'idéalisme. Alors, je précise pour que vous voyez bien, je peux revenir à l'expérience parce que la signification de être est la même que du ceci est. Autrement, je ne pourrais pas revenir à l'expérience. Je serais séparé de l'expérience. Et je dirais que la signification de l'être provient uniquement de l'intelligence qui interroge. Si la signification de être provient de l'intelligence qui interroge, je vais découvrir la signification de l'être en me repliant sur la vitalité de l'intelligence. C'est-à-dire sur l'intelligence elle-même dans son exercice. Et je dirais que c'est à partir de l'intelligence que je dois saisir la signification de être. Tandis que si je reconnais que la signification de être est la même que du ceci est, je sais que c'est en revenant à ceci est, par l'interrogation, que je vais découvrir la signification de l'être. Ça, c'est très important à comprendre, hein. Parce que ça, c'est à partir de là que je comprends ce qu'il peut y avoir de vrai dans l'idéalisme, la séduction de l'idéalisme, et pourquoi je ne suis pas idéaliste. C'est très très important de comprendre ça. De comprendre que si la signification de être est distincte de ceci est, nécessairement la signification de être provient de la source, qui est l'intelligence. Et donc, c'est en revenant à l'intelligence, en essayant de découvrir le côté de la subjectivité transcendantale de l'intelligence, et c'est en découvrant la subjectivité transcendantale de l'intelligence que je vais découvrir la signification de l'être. Donc, j'aurai une signification de l'être à partir de l'intelligence. Et non plus à partir de la réalité qui existe. C'est donc à l'intérieur de la pensée que je découvrirai la signification de l'être. Et la pensée serait la source de la signification de l'être. Alors que si je considère que la signification de l'être est la même que ceci est, je découvre la signification de l'être à partir de la réalité existante.